Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup, on vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité, mais c'est l'heure de la bonne heure avec notre invité Joël Dicker ce matin. Et je vais vous présenter dans un instant, je vous présente d'abord mes petits camarades avec nous, le feuilletoniste de la bonne heure. Il est persuadé qu'il s'occupe vraiment du courrier des auditeurs, c'est bah Stéphane quoi. Rose.
Mais c'est du vrai courrier, je ne le répéterai jamais assez, bonjour.
Bien sûr. On en reparlera un de ces jours. Il y aura la vie de Berne, la capitale de la Suisse, évidemment, par Régis Maillot.
Oui, c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement.
Ah, bah, bon. Oui, bah, vous devriez. Voilà.
Mais c'est vous qui êtes un être capital, hein. On parlera de vous, la vie de Stéphane Berne.
Ah non, ça n'a aucun intérêt. Je préfère la ville de Berne. Alors,
oui. Vous êtes un ours mal léché.
Nous parlerons de la Suisse, justement, avec l'auteur du dictionnaire amoureux de la Suisse que nous aurons au téléphone.
Et au téléphone, bah, c'est bien. Oui. C'est
et puis, bien sûr, le zapping télé de notre Suisse de service, Eric Dussard.
Bonjour à tous, oui, de la télévision suisse, mais pas que. On parlera de la télé belge aussi, qui sera à l'honneur ce soir sur France 3.
Très bien. Et puis, pour terminer, le quiz musical de Patrice Carmouze.
Bonjour.
Bonjour, Patrice. Quel est le thème?
Le thème, c'est Joël, Dick, Dicker et Oula. Stéphanie.
Oh là. Très bien, oui,
c'est... Oh, c'est capillotracté.
C'est un panier garni, en fait, le truc.
Il y a tout dedans. C'est un peu le livre, quoi.
C'est une macédoine, en fait. C'est la macédoine.
On change de pays.
C'est un mélange. Non. C'est une
peut-être
salade.
Que je vais disparaître après.
C'est une fondue.
Eh bien, le cadeau est pas mal. C'est un séjour, un week-end au Sofitel Biarritz, le Miramar, Thalassa, Sea and Spa. C'est vraiment formidable. Appelez au 3210 ou 74.
Stéphane Rose est intéressé.
Ah oui, ça vous intéresse. C'est ouais. Très bien.
Allez, bah, si vous pouvez me faire gagner,
oui, hein,
bien. En trichant comme d'habitude.
Et non, je ne triche pas, moi. Je vous présente notre invité. Notre invité à cause de qui je ne dors plus depuis quelques jours, parce qu'il est l'un des rares auteurs à vous tenir en haleine, page après page, avec le même degré de dépendance que si l'on avait ouvert un paquet de cacahuètes grillées à sec. Lui qui rêvait de devenir pilote de Formule 1, conduit ses intrigues policières à 300 km/h et quoique jeune encore, il utilise dans ses romans tout ce qu'il connaît des turpitudes de la nature humaine, sans qu'on puisse imaginer qu'il s'est inspiré de ce qu'il a observé lorsqu'il était attaché parlementaire au Parlement suisse de Berne. C'est justement pour échapper à son quotidien genevois qu'il a encore une fois situé son action en Amérique, dans les Hamptons, sur la côte est des États-Unis. On retrouve dans ses romans haletants tous les ingrédients qui le constituent, notamment l'amour des librairies en hommage à sa maman. Traduit en 40 langues, vendu à près de 10 millions d'exemplaires, il est invité dans le monde entier comme un véritable phénomène d'édition. Lui qui est un surdoué de l'écriture, maintes fois récompensé, notamment par le Grand Prix de l'Académie française, il publie La disparition de Stéphanie Meller. Avec nous ce matin, Joël Dicker. Bonjour Joël, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Un pavé de quelques 630 pages, j'ai mis quelques jours à le digérer, mais c'est génial. C'est-à-dire, on est vraiment pris par l'intrigue. Dans vos deux derniers romans, l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore, il y avait comme personnage central l'écrivain Marcus Goldman, qui était un peu votre double, votre alter ego. Dans l'affaire Kéber, il était confronté aux affres de la page blanche. Dans le Baltimore, il disait qu'il préférait vivre plutôt qu'écrire. Et vous, est-ce que vous préférez les affres de la page blanche? Est-ce que, mais au fond, après avoir vendu près de 10 millions de livres, vous dites que, au fond, vous pourriez peut-être vous laisser vivre plutôt qu'écrire.
J'ai pas vendu autant que ça, donc peut-être ça répond à la question.
J'avais calculé 6 millions sur Harry Kéber. À partir de 6,
on n'est pas quelques millions.
À partir de 6, on compte pas.
On est suisse.
Vous n'avez pas mis quelques pas.
Fiscal derrière.
C'est pour ça que vous dites
ça. On a vendu 500. On en a vendu 500.
Mais est-ce que les livres sont plus forts que la vie?
Mais oui, j'écris parce que j'ai vraiment envie de le faire. Mais c'est une bonne question parce que je me la pose souvent. Parce que j'ai beaucoup écrit avant que ça paraisse, avant tout le succès, et j'écrivais parce que je voulais vraiment le faire. Même parce qu'on ne me lisait pas, mais parce que j'aimais ça. Et maintenant que j'ai beaucoup de succès, j'en suis très heureux, mais je me pose toujours cette question de base qui est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et c'est cette envie qui me guide vraiment. C'est la question de quand je me lève tôt le matin comme ça, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer dans le livre? Et c'est ce plaisir-là qui est pour moi le garant de faire ce que je fais, de faire quelque chose que j'aime vraiment.
Oui, parce que vous écrivez très tôt. Hein.
Oui, je me lève en général vers 4 heures.
Ah oui.
Mais oui, parce que c'est un, ce sont des bonnes heures pour moi. Je trouve que le matin, comme ça, tôt, c'est des heures qui comptent.
Mais vous mettez le réveil, rassurez-moi.
Mais je mets le réveil, oui.
Ah oui, parce que vous ne vous réveillez pas naturellement.
Sinon, c'est midi. Mais de me réveiller comme ça, très très tôt, si je saute du lit en me disant « qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans le livre ?» Pour moi, c'est un très bon signe.
Un meurtre. Je vous assure, il y a toujours un meurtre. Il va se passer un truc bizarre. Bon, on va essayer de découvrir vos secrets d'écrivain avant de parler de ce formidable et haletant roman « La disparition de Stéphanie Meller ».
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous retrouvons ce phénomène de librairie qui s'appelle Joël Dicker. Alors, on va essayer de savoir comment vous faites. Est-ce que vous avez un mot préféré et que vous utilisez dans tous vos livres comme une sorte de fétiche ou de gris-gris ou de...
Non, en fait, je n'ai pas de plan. J'écris sans plan.
Oui.
Et c'est vraiment l'idée d'une boule de neige, puisqu'on est en Suisse, qui avance et puis qui grossit, et puis sur laquelle se colle du bois, de la terre, quelque chose d'autre.
Et quand vous ennuyez, vous faites mourir quelqu'un.
mais c'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de mot particulier, il n'y a pas une idée de départ. Il y a vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure.
Et est-ce qu'il y a un mot que vous détestez, que vous refusez d'utiliser dans vos livres?
C'est une bonne question. Pas trop de grossièreté, je crois.
Il y a pas un gros mot. Si il s'insulte jamais.
S'il y a la grand-mère qui dit c'est de la merde, je sais pas si on peut
oui,
le dire.
Oui, mais ça, on peut.
Oui, on peut.
Exemple,
on peut.
C'est pas... On est dans un milieu, par c'est exemple, merde, les policiers sont là, à Orphéa, ils sont dans leur ville, et à aucun moment ils insultent, à aucun moment ils disent une grossièreté, vous voyez, oui. On est entre nous.
Vous avez été déçu, Stéphane.
Mais déçu en bien.
Déçu
en bien, parce que ce garçon est bien élevé. Alors, est-ce que vous jouez à mettre dans vos romans des mots, vous savez, comme, je ne peux pas révéler l'intrigue, mais à un moment, on trouve un mot comme ça en cherchant bien. Est-ce qu'il y a un mot, un pari, par exemple, le mot crocodile, vous dites
il faut que je mette un mot.
Stéphane, on lui lance des défis parfois comme ça à la télé.
À l'Eurovision, pour l'Eurovision, il m'avait dit, il faut que tu mettes le mot crocodile.
Crocodile, oui.
Et donc à un moment...
Et cette année sera hippopotame, j'y ai réfléchi.
J'ai vu que la Kosovare, elle était habillée comme un hippopotame.
Bah, très bien.
Ça va aller très
c'est
bien.
Comme c'était fait.
Il y a des écrivains de l'Oulipo qui font ça, qui font des...
Oui, pas tant des mots, mais parfois des scènes ou des moments, surtout des moments qui auraient pu être dans un livre avant que j'ai dû enlever du livre parce que ça marchait pas, mais qui est une scène que j'aime bien. Je me dis, mais j'aurais bien essayé de la mettre là. Donc il faut essayer de la faire coller.
Ça s'appelle copier-coller.
Exactement.
Vous l'avez gardé.
Oui, j'ai des gros mots.
c'est vous qui lui inspirez des gros mots, Stéphane, en fait.
Mais comment vous faites? Parce que vous avez une méthode très particulière. J'ai retrouvé ça chez aucun autre auteur. C'est qu'en fait, on a des angles de vue différents. C'est comme au cinéma, évidemment. Et on suit un personnage qui nous raconte son aventure. Alors, ce qui complique, c'est il y a 10 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui. Il y a 20 ans et aujourd'hui. Et puis, on revient et on passe à un autre. Et c'est tout le temps, on change d'angle. Vous y retrouvez, vous,
plan si, je m'y retrouve sans plan parce que je crois que si j'avais besoin d'un plan, ça serait justement pas très clair. Je crois que le plan serait une béquille qui me dirait « Bon, ben, je m'accroche à ça, puis si je me perds, c'est pas grave, je reviens sur le plan. » Alors que pour qu'un lecteur puisse suivre, je crois que c'est important que moi-même, qui suis le premier à le lire, j'ai pas de plan. Sinon, ce serait un peu un drame, il me semble.
Il est trop fort, ce garçon. Allez, on va retrouver Joël Dicker dans un instant.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Et c'est publié aux éditions de Fallois. Alors, c'est le quatrième, hein, on peut dire que c'est le quatrième, même si le premier était passé sous silence. Mais on a
surtout... le quatrième quand même.
C'est le quatrième quand même. mais c'est vrai qu'après, il y a eu l'affaire Harry Guébert qui a tout explosé. Alors, comme souvent chez vous, je le disais tout à l'heure, il y a toujours un retour dans le passé. Le pitch est simple. En 1994, une petite ville des Hamptons a été bouleversée par un fait divers terrible. La famille du maire a été assassinée, 4 personnes d'un coup. Et puis, il y avait une femme témoin. Qui, elle aussi, devant la porte, elle a été assassinée. Alors, l'affaire est assez vite résolue. Le meurtrier est arrêté par 2 jeunes policiers. Sauf que 20 ans plus tard, une journaliste, Stéphanie Meller, enquête sur cette affaire, parce qu'elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et au moment où elle va révéler aux policiers ce qui s'est passé, 20 ans avant, elle disparaît.
Eh oui.
Incroyable. Et alors là, alors dit comme ça, c'est vrai, votre enquête, c'est un formidable polar, mais c'est ça, et c'est beaucoup plus, parce que y a un truc qui plaît, c'est qu'il y a une trentaine de personnages, comme des marionnettes que vous agitez comme vous voulez, et qui ont tous leur autonomie, et ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, et en fait, petit à petit, on va retisser les fils, on va
voir ce qui les relie.
On va voir ce qui les relie, oui.
Mm-hmm, oui, c'était peut-être une des idées à la base du livre, avant qu'il y ait une enquête. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment l'idée de l'enquête du meurtre est venue après. Et à la base de ça, je voulais avoir une galerie de personnages très différents qui ne se connaissent pas et qui sont reliés tout d'un coup par quelque chose qui les fait se rencontrer. C'est un peu la théorie des 6 degrés de séparation, où au fond, tout le monde se connaît par une chaîne de 6. Et j'avais envie de créer quelque chose comme ça. Alors à la base, j'ai commencé avec 6 personnages, et puis ensuite, il y en a eu après 12, et puis après 20, après 40 et quelques, et je suis revenu finalement à une version plus courte de 30 personnages.
En fait, il y a 6 personnes. Entre Stéphane Rose et Donald Trump, il y a 6 personnes.
Oui, et peut-être moins maintenant.
Entre lui et Donald Trump, il y a une actrice porno. Ça fait une personne.
Stéphane Rose, vous connaissez Emmanuel Macron qui connaît Donald Trump.
Bah, vous voyez. Voilà.
Donc ça va plus vite.
Oui, mais je ne vais pas appeler Donald Trump moi-même.
Il y a un accès par quatre. C'est ça la chaîne de 4.
Même serré à la main. Enfin, oui, en gros, c'est ça.
Et on dit que par Facebook, maintenant, c'est plutôt 4 ou moins 4. Et apparemment, Hollywood, c'est une chaîne de 2. Parce que tout le monde connaît tout le monde.
Hey. C'est fou, ça.
C'est l'endogamie. C'est dingue. Une chaîne de grâce à Rivenstein, tout le monde.
C'est une chaîne de
grâce. Tout le monde a couché avec tout le monde.
Chaîne physique. Encore pire. Chaîne physique.
Chaîne physique. Oui. Chaîne physique. C'est une connaissance directe.
Et alors, par exemple, moi, grâce à Stéphane Rose, je connais Clara Morgan. Et Ovidie aussi. C'est sa spécialité, c'est les films porno. Alors, bon, ça, on y reviendra tout à l'heure.
On va tous aller faire un check-up, surtout. Grâce à Stéphane Rose.
Il faut remettre vos connaissances à jour, parce qu'Ovidie et Clara Morgan ne tournent plus depuis assez longtemps. Et mais je vous fais un petit brief.
Il est renseigné.
Il y a des nouvelles.
Mais il faut dire que c'est un formidable terrain de jeu pour un auteur comme vous, d'avoir tous ces personnages qui ont leur psychologie, leurs histoires. Le fait que ça soit dans les Hamptons, il y a un lien particulier, c'est pour sortir des plaines et des montagnes suisses.
Oui, c'est pour m'en éloigner, parce que je crois que je n'arrive pas encore à créer une Genève de fiction. Et je crois que pour l'instant, quand je parle de Genève, ça reste un peu la Genève dans laquelle je vis. Et il y a quelque chose qui me limite. Et la fiction, pour moi, c'est une liberté. Et être sur la côte est que je connais très bien, il y a de la crédibilité parce que je la connais bien. Et en même temps, c'est très libre. Je peux faire à peu près ce que je veux, mettre.
Ah ben, vous pouvez mettre un bouquet de fleurs à l'entrée d'Orphée. Personne va
dire. Personne ne va dire.
Ne va dire. Ah ben mais non.
Sinon, vous avez des lecteurs qui vont vous écrire.
C'est au nord de New York, les Hamptons, c'est ça?
C'est sur Long Island, dans l'Est. Dans l'Est. Mais les gens m'écrivent tout le temps pour me dire, mais attention, parce que j'ai refait le trajet sur Google Maps et on aurait pu passer par ci ou par là.
Et le nom des rues est vrai?
Le nom des rues est inventé, mais la ville est fictive parce que justement, en fait, j'ai pas envie
de que les gens aient vérifié.
Mais là, il n'y a pas cette rue, il n'y a pas un restaurant ici.
Il y a deux passages qui m'ont enchanté. Il y a un passage, c'est page 133. Il y a un critique littéraire qui est un des personnages qui s'appelle Meta Ostrovski. Et vous lui faites raconter au fond ce qu'est la critique. Il ne lit pas les livres, mais il les critique. Il dit Nous sommes la police de la vérité intellectuelle. Au fond, ce qui différencie, n'importe qui peut écrire maintenant, et lui, une guenon peut écrire. C'est une critique, mais violente contre les critiques littéraires.
Non, c'est pas une critique, c'est pas une attaque, c'est pas une charge. C'est un amusement.
C'est amusant.
Méta, même l'idée de son prénom, c'est méta. Hein, donc méta, on est dans le méta-roman, dans ce qui est dans à l'intérieur, en même temps d'une fiction. Et que c'est vraiment l'idée d'avoir un personnage critique très amusant. C'est un livre qui parle un peu de théâtre, et c'est l'idée au fond théâtre grec où l'acteur avait un masque qui représentait une fonction, une institution dans un côté très caricatural dans le vrai sens du mot.
Non, c'est vrai. Parfois, dans les autres romans, il y avait la littérature, il y avait la peinture. Là, maintenant, il y a le théâtre.
Oui. Le théâtre joue important, oui.
Parce que tout va se révéler peut-être dans une pièce de théâtre.
Mais ça continue.
Non, là, j'ai rien dit. C'est énigmatique. Ce que je dis est énigmatique.
Il y a un festival de théâtre dans la ville. Voilà. Il y a un théâtre très important.
Il joue un rôle très important, le théâtre.
Moi, je comprends pourquoi vous n'avez jamais présenté Sacré Soirée. Ça aurait raté dès le début.
On va tout à l'heure.
Et page 321, là j'avance un peu dans le roman.
On est presque au bout là.
Il y a Jerry Eden, qui est le patron d'une chaîne de télévision, Channel 14. Il imagine un nouveau programme de télé-réalité, et là ça va vous plaire.
Ah, dites-moi.
C'est deux familles très différentes, une famille très sportive qui mange sainement, et une famille d'obèses qui mange que des choses grasses en regardant la télévision.
C'est bon ça, Énergie de Zadjassi.
Et c'est sponsorisé par la marque de chips Grassitos.
C'est bien.
Et ça, vous êtes amusé là aussi.
Mais oui, c'est l'amusement justement, parce que quand on parle de quelque chose, je crois que si on en parle de façon très large, trop grande, plus grande que la réalité, c'est là où on peut pointer vraiment ce qui pique. Et je trouvais que cette idée d'une famille, alors il y en a qui sont sportifs et les autres qui sont gros, exactement. Et ils disent aux gros, mais allez, on fait du sport. Et eux disent, oh non, on est trop gros. Mais c'est l'idée de la nullité de la télé-réalité.
Il y a un moment, c'est très réaliste. Un collaborateur qui dit, oui, mais il faut leur faire signer une décharge parce que si ça attrape le diabète, on va encore devoir payer des primes.
Mais oui, parce que je crois que la télé-réalité a quelque chose de très cynique comme ça. Pour ceux qui la font, pour ceux qui la voient, et que c'est seulement ceux qui sont derrière la caméra qui ont l'impression de faire quelque chose, alors qu'en en fait, je crois qu'ils ne font rien.
Non, mais en tout cas, c'est superbement bien écrit. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. Alors, on va écouter Lloyd Cole and the Commotions, Forest Fire.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Toujours avec Joël Dicker, qui publie chez De Fallois, La disparition de Stéphanie Meller. On retrouve Stéphane Rose.
À la bonne heure, service qualité.
Je suis vache, mais je suis réglo.
Stéphane Rose.
Mais plus vous maillerez, et mieux vous apprendrez.
Bonjour à tous, on commence avec une question de Ginette à Bibiche, en Moselle. Je suis une fidèle de votre émission et suis chaque jour surprise de l'amabilité sans limite de Stéphane Bern avec ses invités. Comment fait-il pour aimer tout le monde ? Eh bien Ginette, il fait semblant, tout simplement. Et non seulement il n'aime pas tout le monde, mais en prime, il y a des invités auxquels il est physiquement allergique. Écoutez ce qui s'est passé mardi dernier pendant sa présentation de l'invité du jour, Alexandre Jardin.
Tandis que côté Jardin... Il est lui-même le fruit d'une grande saga familiale. Pardon, je vais éternuer.
Ah non.
Alors, je rassure notre invité du jour. Pour le coup, Stéphane Bern vous apprécie beaucoup. Certes, il fait semblant d'avoir lu votre livre depuis le début, mais il vous aime bien.
C'est vraiment lui, c'est pas contrairement à vous.
C'est bien le problème, c'est que vous dites tout après.
En fait, vaut mieux pas que je lise, ni que je vois les films.
C'est meilleur pour la promo. Hein,
oui, je sais.
Un message de Patrice à Paris. Ah. Salut, c'est Carmouze. Juste pour dire que si Stéphane Bern est OK pour un plan à 3, je suis dispo. Alors, je vous avoue que j'ai d'abord trouvé ce message quelque peu incongru, mais j'ai fini par comprendre l'origine de cette proposition en écoutant la VDB de lundi dernier. On écoute.
Tu as raison, je crois que je suis amoureux, Maillot. Va rentrer, patron. Bah pourquoi ? J'ai fait une rencontre. Vous venez d'embrasser un poney, là.
Bon, je me moque, mais je voudrais quand même féliciter Patrice qui a réussi à passer toute la semaine dernière au salon de l'agriculture sans violer un seul animal. Il y a bien eu un rapport avec une vache charolaise, mais de l'avis de l'éleveur, elle était consentante, donc pas de problème. Un message de Jessica des Princes de l'amour sur W9. Éric Dussard s'est moqué de moi la semaine dernière dans sa rubrique télé à cause que j'ai utilisé l'expression « c'est l'hôpital qui se fout de la charcuterie » au lieu de « c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». Mais il peut se moquer tant qu'il veut, je m'en tamponne le Marion Cotillard, la bave du crapaud n'atteint pas Christophe Colomb. Le message est passé, Jessica.
C'est la vraie.
Une question d'Abdel Jordan des Princes de l'amour sur W9, décidément. Est-ce que le déodorant à boules marche aussi pour les aisselles ? Non, je renonce à vous expliquer, Abdel Jordan.
J'ai une image mentale qui s'est fabriquée.
Ça fait mal, en plus.
Un message de Georges à Paris. Salut, c'est Georges, le responsable des partenariats à RTL. Merci de m'avoir encore bien pourri la promo des enceintes qui nous ont été offertes pour la valise RTL. Le partenaire est foudrage. En effet, on écoute...
J'ajoute dans la toute nouvelle valise RTL une enceinte Color Block Popo.
Popo.
Bah dis donc.
Popo.
Popo. Comment vous l'écrivez ?
POW. POW.
Donc nos excuses à notre partenaire. Vos enceintes ne sont évidemment pas des enceintes de merde. Et désolé Georges de t'avoir fait une nouvelle fois t'arracher les cheveux. En même temps des cheveux vu que t'en as pas, j'ai envie de dire c'est pas si grave. Alors, pour finir, justement, puisqu'on en parle, vous pouvez dès maintenant essayer de gagner la valise RTL. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante en envoyant A ou B au 62-600. Qu'est-ce qui met un temps infini à redémarrer après s'être déchargé ? A, l'iPhone. B, Stéphane Bern.
L'iPhone. Merci Stéphane Rose.
On n'a dit pas de marque.
Eh bien, ah oui, c'est vrai, pas de marque. On va retrouver dans un instant Joël Dicker pour son livre, La disparition de Stéphanie Meller. Mais elle a vraiment disparu. Et puis le vrai faux des invités.
Le vrai faux de l'invité.
Alors, c'est quelques informations qu'on donne sur vous, je leur propose. Et puis ensuite, vous dites si c'est vrai ou si c'est faux.
Avec plaisir.
Il est arrivé à Joël qu'on lui demande des autographes et qu'on lui dit « Est-ce que vous pouvez signer Jude Law bien lisiblement ?» Parce que les gens le confondent avec Jude Law.
Oui, ça doit être vrai, ça, ouais.
Oui, ça peut être possible. Oui, oui, ça peut être possible. Ou un autre. C'est vrai qu'il a un physique. Vous avez un physique d'acteur un petit peu. Donc c'est possible.
Ça va pas durer, mais je vous remercie.
Pourquoi ça va pas durer?
Je sais pas parce que je suis encore très jeune et que ça va pourrir un peu à peu.
Non, au contraire. Vous voyez, il y a des gens qui vieillissent très bien quand même. Hein.
Oui, hein oui. Mais
on est vieux nous.
C'est pas ce que j'ai dit.
Nous, on fait de la radio, vous voyez.
Mais vous avez demandé
Jude Law, non.
Quel autre acteur? Non.
Autre acteur, non. Non, non. Qu'est-ce qu'on m'accompagne? Non, j'ai pas eu de... Mais on me le dit pas souvent, donc ça fait très plaisir, merci. Je reviendrai.
On fera un selfie tout à l'heure, on dira comme ça qu'on était avec Jude Law.
Je vais vous faire un aveu, parce que j'ai rencontré Jude Law.
Ouais.
Il est tout petit.
Ah ouais.
C'est vrai,
il est plus petit que moi.
On lui dit jamais
qu'il ressemble à Joël Dicker. Alors que Joël Dicker est très très grand, 1m92.
Mmh. Ouais, exactement.
Ah oui,
exactement.
Ouais. Non, il ne compte pas dans l'œil.
Je le compte.
Alors on a un petit peu parlé dans le chapeau, mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé au roman, mais il s'est accordé un petit peu une plage de repos à un moment. Et vous savez qu'il est excellent pilote, et donc il a fait un stage de Formule 1 chez Ferrari, et on pourrait bientôt le voir dans certaines courses.
Ah, qu'il soit pilote certainement, parce que c'est un, mais être de là à faire de la compétition en Formule 1, c'est
pas en Formule 1 forcément, mais dans
non, moi je sens la carmouzade. À mon avis, il doit aimer la Formule 1 et ça s'arrête à ça.
Allez, moi je dis pilote.
Bah, c'est faux.
Ah, c'est faux, oui.
C'est juste un rêve.
Mais vous adorez.
Mais en fait, c'est pilote de ligne. C'est pas pilote de voiture. Mais on peut dire de la Formule 1 aussi. Mais je pense que dans le baquet, je vais plutôt.
Un A380 sur un circuit, ça avance pas vite.
Vous prenez des cours de pilotage?
Non, mais j'adore les avions. J'aurais voulu être pilote. Et quand je peux voler dans un avion et que parfois le commandant de bord me permet de venir voir ce qui se passe devant, c'est un grand bonheur.
Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant Marc Lavoine, Je reviens à toi. Magnifique chanson.
La musique sur RTL, c'est ça.
RTL vous joue les tubes d'aujourd'hui, mais aussi les plus grands classiques.
Toute la journée, vos artistes préférés sont sur la première radio de France.
On aime la musique sur RTL. À la bonne heure, Stéphane Bern.
Nous sommes toujours avec Joël Dicker pour son nouveau livre « La disparition de Stéphanie Meller ». Et c'est publié aux éditions De Fallot. D'ailleurs, vous dites des mots gentils pour
Bernard De Fallot.
Bernard De Fallot, un grand éditeur.
Ouais, très tendre.
Qui nous a quittés.
Ouais, ouais. Qui est décédé le 2 janvier et qui a suivi ce livre comme tous les autres. Et je lui dois tout. Je lui dois le succès que j'ai eu. Et je lui dois d'être là aujourd'hui avec vous. Mais je lui dois surtout tout ce qu'il a réussi à m'insuffler de son énergie, de sa connaissance. Et ça a vraiment été quelqu'un de très, très important pour moi et qui va me manquer beaucoup.
Mmh. Et l'adaptation de l'affaire Harry Kébert.
L'adaptation, c'est lui aussi. On avait fait, je crois, une très belle adaptation par Jean-Jacques Hano qui va sortir l'automne prochain.
Très bien.
Et c'est grâce à Bernard aussi qui a réussi à...
Je crois qu'il a refusé 90 propositions avant.
Il a refusé, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il l'avait fait parce qu'il avait la conviction que les propositions qu'on lui faisait n'étaient pas assez fortes par rapport à l'enthousiasme de celui qui les faisait. Et il voulait vraiment quelqu'un qui soit très enthousiaste. Et quand on a vu Hano qu'il avait, on n'a ni rien signé, ni rien. Mais je vois ça, on pourrait faire ça comme ça. Il y avait vraiment quelque chose de bienfaisant, très enthousiaste. Et, voilà.
Et qui correspondait à votre vision.
Qui correspondait à ma vision parce que c'était vraiment la question de tout ce qu'on ne voit pas. Ce qui est intéressant pour un film, c'était la question de ces personnages. Qu'est-ce qui se dégage d'eux, les sentiments, le charisme, qui sont pour moi les éléments les plus importants. Pas de savoir si un tel, d'ailleurs je ne le dis pas vraiment, si un tel est blond ou brun ou grand ou pas. C'est vraiment de savoir comment est-ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et Hano avait tout compris, vraiment.
Alors, c'est le moment, on va continuer à parler de la Suisse, si vous voulez.
Avec
bien,
grand plaisir.
Parce que c'est à la fois un pays très proche et très étonnant, très, très exotique pour les Français.
C'est vrai.
Et nous avons au téléphone Metin Arditi pour son dictionnaire amoureux de la Suisse. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors d'abord un mot sur vous, Metin Arditi. Vous êtes d'origine turque, vous êtes surtout un très grand romancier. Moi, j'ai été ébloui par L'enfant qui mesurait le monde chez Grasset. Et formidable livre, bouleversant. Mais comme vous le dites vous-même, vous êtes un Suisse à 4 sous.
Oui.
C'est justement riche, parce que vous êtes à la fois dedans et dehors que vous êtes amoureux de la Suisse.
Alors, À 4 sous, ça s'explique parce que lorsque l'on devient suisse, il faut payer quelque chose.
Ah.
Nous sommes dans le pays de la réalité.
Oui.
En Suisse, il faut payer quelque chose. Vous savez, quand on est un immigré dans un pays, oui, et que ce pays vous offre ce que la Suisse m'a offert, forcément, on a une reconnaissance pour le pays qui est à la mesure de ce qu'on a reçu. Mmh. Et donc, bien sûr, de ce pays, je l'aime profondément. Mais au-delà de mes propres sentiments, je crois que c'est un pays dont on peut facilement tomber amoureux parce que c'est un pays qui recèle de très grandes richesses. C'est un pays très subtil. On ne le voit pas comme ça souvent, n'est-ce pas?
Non, parce que il y a des clichés. On s'en tient aux clichés. C'est les banques, les montres, le chocolat.
la Suisse,
au fond, au fond.
Mais
vous voyez,
voilà. Et puis,
les montagnes, les alpages.
Voilà. C'est vrai aussi, mais c'est
voilà,
pas que
c'est
ça.
Il y a les montagnes, il y a l'alpage, et il y a cette idée que, au fond, la Suisse est un peu un pays de paysans. Mmh. Alors, historiquement, c'est parfaitement juste, mais aujourd'hui, ce que l'on constate en Suisse, c'est qu'il y a quand même 4 langues,
oui,
il y a de très nombreuses religions, il y a différentes cultures, et que tout ça vit en paix,
oui,
dans une harmonie extraordinaire. Mmh.
Mais avec un système politique très étonnant, qui ne lasse pas de nous étonner, des dirigeants qui restent un an au pouvoir, des référendums d'initiative populaire, les votations sur tous les sujets et
voilà,
parfois très étranges.
Un an, Stéphane, le président pendant un an, mais il reste conseiller national.
À peine on a le temps de le féliciter qu'il est déjà parti. Moi, je savais qu'il avait couche-pain, je lui ai envoyé un mot, il était déjà parti.
Il garde ses fonctions et au fond, tout cela fonctionne sur un principe général qui découle de l'histoire de la Suisse, qui est très profond, qui est le principe d'humilité. Mmh. Au fond, le fait que les Suisses ont été pendant des siècles des paysans, et en particulier des paysans de montagne, c'est-à-dire que leur travail consistait en une agriculture difficile, dans des terrains escarpés, fait que le rapport du Suisse à la réalité est très fort. Mmh. Lorsque vous avez un rapport fort à la réalité, forcément, ça vous ramène à l'humilité. Mmh.
Et alors, je termine, Metin Arditi, avec ce très beau texte que vous, dans le dictionnaire amoureux, que vous consacrez à notre invité. À la lettre
bonjour,
D.
Bonjour, Metin, je t'embrasse.
Je t'embrasse aussi.
Et alors, ils disent, c'est très drôle, vous dites, le nombre de fois qu'on m'a posé la question, tu en penses quoi, toi, Joël Dicker? Évidemment, la réponse attendue était de genre, c'est pas mal, enfin, ça vaut pas tous ramdam. Eh bien, non. Mon père et le grand-père de Joël étaient les meilleurs amis du monde.
Voilà. Oui,
Et puis vous dites des choses très gentilles. Quant au public suisse, c'est son petit prince des lettres.
Absolument.
Qu'il a trouvé en Joël Dicker. Il est jeune, beau, bourré de talent, charismatique comme pas possible. Et pas des moines, il sait imaginer des histoires et les dérouler avec le savoir-faire d'un conteur d'Orient. On ne pouvait pas rêver un meilleur compliment. Metin Arditi, j'en ai autant pour vous parce que voilà, il y a des choses passionnantes dans votre dictionnaire amoureux. On retrouve Simenon, Frédéric Dard, Nicolas Bouvier,
Tinguy,
Calvin, évidemment. C'est le Saint Grand.
Il y a même un chapitre qui s'appelle Berne la Charmante.
Oui, mais c'est
on parle de Stéphane dans ses meilleures soirées.
Il s'agit évidemment de la capitale. Non, c'est pas mon surnom. Il y a un E à Berne. Là,
justement, le soir où vous faites les soirées charmantes, il y a un E à Berne.
Et c'est Dictionnaire amoureux de la Suisse, Metin Arditi, publié chez Plomb. Merci beaucoup.
Merci, Metin.
On retrouve dans un instant Joël Dicker et Régis Maillot.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Joël Dicker, le petit prince des lettres suisses. Alors là, maintenant, ça va vous rester. Hein. La disparition de Stéphanie Meller aux éditions de Palois.
C'est Berne la Charmante qui le dit.
Mais arrêtez.
Quel beau dictionnaire.
C'est la capitale de la Suisse.
Mais qui porte ce nom, de fait, évidemment, c'est à cause Bern. De vous.
Bern. Bern en allemand, c'est les ours. Les à ours. Cause de l'ours, oui, c'est son symbole. Ouais. Et nous retrouvons Régis Maillot, VDB. La ville
VDB,
de Berne.
La vie de Berne.
Régis Maillot.
Oui, ça pourrait être la ville de Berne.
Ouais. Hier, 8 mars, comme chaque année, nous célébrions la femme. Et Stéphane Bern, qui est un féministe exemplaire, a tenu à mettre sa notoriété au service de la cause et consacrer un secret d'histoire à cette journée. Bonsoir les chandons. C'est Stéphane Bern, pape de l'ORTF et distraction favori des personnes âgées. Soyez le bienvenu dans ce numéro inédit de Secret d'Histoire consacré à ce que les historiens s'accordent à considérer comme le plus grand fléau du XXe siècle, la femme. Mais enfin, patron, là, qu'est-ce que vous racontez? Il y a dû avoir un problème dans vos fiches. Mais cesse de m'interrompre, Maillot. Tu vois bien que j'allais ouvrir une porte pour dire le reste du texte. On reprend. Nous sommes le 8 mars et comme chaque année, nous célébrons la femme. En effet, à une porte. Comme toutes les calamités, les maladies et les trucs qui grattent, la femme a sa journée, le 8 mars. Et contrairement à la grippe, malheureusement, personne n'a encore réussi à trouver le vaccin. Mais patron, là, qu'est-ce qui se passe? On vous a refilé les fiches de texte? C'est pas possible. Cesse de m'interrompre, Maillot, vois-tu, que je déambule dans les galeries du Musée de l'Homme. Allez, on reprend. À noter que la journée de la femme est entourée de deux autres journées. La journée de la grand-mère, qui était un produit dérivé de la femme. Ainsi que la journée de l'audition. Admettez qu'après la journée de la femme, on a tous besoin de se soigner les tympans. Stop! Oh! Mais quoi encore, Maillot? Il est de mon devoir d'animateur vedette de dénoncer les injustices qui frappent ce monde. Les chiffres sont éloquents. Sais-tu, Sombrignard, que 231 pays dans le monde sont encore dirigés par des femmes? Plus d'une femme sur deux possède le droit de vote. Et dans certains pays reculés, je te l'accorde, certaines sont habilitées à posséder un compte en banque à leur nom. Et tu voudrais que je me taise? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qui vient me frapper au parti avec la violence du babouin. Ah bah, je crois que c'est notre chroniqueuse vedette, hein, Joël Goron. Ah, c'est Joël Goron, enfin, c'est son sac à main. Oh, mais piquez-la, la vieille. La douleur est insupportable. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je recompte, pardi. Je crois que j'en ai perdu une sur les trois. Vite, apporte-moi de la glace. Oh, ça va mieux, ça va mieux. La douleur m'a réveillé l'esprit, Maillot. Je crois que je viens de comprendre ma terrible méprise auprès de la jeune féminine. Ah bah oui, bah j'ai essayé de vous prévenir. Oh, quel idiot ai-je été de ne pas relire mes fiches. Maximus, mea culpa. Je vais me rattraper afin de redorer mon blason auprès de la jeune féminine. Mais avant, Maillot, rends-moi service et oins-moi les testicules de cette crème anti-inflammatoire. J'ai trop de douleurs. Ah non, 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 non. Écoute, Maillot, je n'y prends aucun plaisir. Je te demande simplement de pratiquer de la médecine réparatrice. Bon, allez, d'accord. Ah, mais pas trop fort, oh, quand même. Oh, dites-moi, patron.
Non, mais le vendredi, vous lâchez, là.
Oui. Dites-moi, patron, qu'est-ce que vous comptez faire pour vous faire pardonner auprès des femmes? Écoute, Maillot, je ne vois qu'une façon. Nous allons balancer du porc. Ah bon? Vous en connaissez? Mais évidemment, 30 ans que je suis dans le showbiz, question porc, j'ai de quoi ouvrir une étalaryngite. J'en ai vu défiler les plus gros cochons de Paris. Oh, c'est génial. Allez, c'est parti. Alors lui, un petit mail, lui un petit tweet, lui un message sur Facebook, lui une dépêche AFP, et lui filme-moi, je vais faire une vidéo où je pleure. Ah bah c'est courageux ce que vous faites, patron, je suis fier de vous. Juste une précision, vous avez des preuves sur ces porcs? Ah non, 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 j'ai choisi uniquement des gens que j'aime pas. Ah, ça me rassure. Je vous retrouve. Je vous retrouve. Un dernier truc, patron. Parle sans crainte, Maillot. Oui, c'est à propos de la crème. Vous êtes certain que c'est bien un anti-inflammatoire? Pourquoi tu dis ça? Bah, l'effet secondaire est particulier quand même. Ah, peut-être, j'ai pris le tube dans le tiroir de la table de nuit.
Ah. Mais vous, c'est... Vous êtes devenu polisson, vraiment.
Ah bon?
Polisson, ouais. Alors ça, c'est trash. Hein. Il va loin, là.
Hé, oh, je peux vous attaquer en justice. Hein.
Espèce de polisson, bah, tiens.
Vous connaissez pas ce mot?
Mais si, c'est... on l'a connu.
Balance
par
ton polisson.
Passé,
hein.
Bien sûr.
C'est plus élégant, non?
Oui, très.
Oui. Voilà, c'est... Eh bien, c'était Régis Maillot.
Merci.
On va retrouver dans un instant, pour la suite de la bonne heure, Joël Dicker, pour son nouveau livre « La disparition » de Stéphanie Meller, aux éditions de Fallois. Et puis, Régis Maillot est en tournée le 17 mars à Clessouilly, le 23 mars dans le Finistère à Plougonvelin, le 24 mars à Quimper, le 30 mars à Marseille.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Eric, on commence avec un voyage en Belgique.
Et oui, ce soir sur France 3, un documentaire sur nos amis belges et leur folie qu'on aime tant. Ça s'appelle « Les Belges, ça ose tout ». Et effectivement, on y verra des Belges qui ont vraiment tout osé, comme François Damiens, qui s'était fait passer pour un parent d'élève auprès d'un professeur de collège.
Dimitri est un passionné de jeux électroniques, tout comme moi.
Oui.
Étant donné que j'ai travaillé énormément le week-end, on joue souvent lundi soir.
Oui.
Et ce sont des jeux qui se prolongent souvent jusque, je vais dire, 3-4 heures du matin. Et je voulais savoir s'il était possible qu'ils ne viennent pas en géographie en première heure le mardi, pour qu'ils puissent un peu récupérer, parce qu'il est crevé le matin.
Et ce serait systématique, toutes les semaines?
Oui, mais vous savez combien ça coûte une console? Moi, d'accord,
ah, oui, mais je ne la rentabilise pas non plus. Hein.
Je suis d'accord avec vous.
Et il a encore malgré tout le temps de manger, de dormir, d'un peu travailler pour l'école.
Bah, le lundi soir, en général, il ne mange pas. Il mange beaucoup au midi. Il prend une bière avec moi en jouant.
Là, je peux vous dire que le prof était au bord du malaise vagal.
C'est pas quoi dire.
Et comme toujours avec les caméras cachées, en fait, plus c'est énorme, mieux ça passe, en fait. Les gens sont comme hypnotisés. Alors, un autre Belge très hypnotique que l'on redécouvrira ce soir dans ses œuvres, un humoriste, lui aussi, à sa manière, sauf qu'il ne le fait pas exprès. Il s'agit évidemment de Jean-Claude Van Damme.
Je parlais de molécules et de toutes ces conneries-là, mais en vérité, le corps fonctionne à une certaine vitesse. Et c'est la vitesse de la pensée, qui est la vitesse la plus rapide au monde. Alors quand tu penses et que tu envoies d'ici, là-bas, dans le futur, une question, et si elle s'accroche et t'as finalement reçu ce vent, tu n'as plus qu'à te comporter comment cette chose s'est réalisée dans le futur. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même bien des nains qui savent bien peindre.
Oh bah alors s'il aime bien les nains qui savent bien peindre, on n'a rien à rajouter. Hein. Écoutez, c'est ça le mystère, mon ami, les trucs qui sont, c'est pas trop doux d'ailleurs, lui non plus. Ah, à mon avis, l'histoire des nains qui savent peindre, là, c'est venu comme ça, je pense. C'était direct de cerveau le toboggan. Hein. Donc, dans ce documentaire, on verra des doudingues et puis des Belges qui n'ont pas froid aux yeux. Par exemple, Philippe Gueluc, qui avait quand même osé sortir ceci à Sœur Emmanuelle. C'était sur le plateau de Michel Drucker, sur France 2.
Vous avez déclaré un jour...
Un jour.
Moi, les pauvres, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les bagnoles de luxe.
Moi, j'ai dit ça. Quel jour et à quelle heure et à quel endroit? Excuse-moi, c'est une imbécilité. Je sais que tu l'as dit.
Je vous avais...
Ça m'étonne de toi.
Non, ça allait encore. Elle n'a pas explosé de rire, mais bon... Son insolence n'avait pas non plus mise en colère, alors que ces journalistes de la RTBF qui, en 1993, en 93, pardon, je traduis, avaient osé poser des questions à François Mitterrand sur les écoutes de l'Élysée, bien eux, ils s'étaient pris, mais alors une volée de bois vert pour le coup. Si Mitterrand s'attendait pas à leurs questions, eux ne s'attendaient sans doute pas non plus à sa réaction.
C'est révélation.
Je suis très étonné que vous engagiez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interruption.
Il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas...
Vous voulez qu'on s'en pense encore un peu plus. Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilenie.
Mais, monsieur le Président, merci. Il ne s'agissait pas de ça.
Pas été conversation est terminée.
C'est un langage diplomatique. Ouais. Ça veut dire vous dégagez ou vous allez vous faire botter le cul.
Alors qu'il y avait des écoutes. Hein.
Oui, mais c'est une vilenie. On ne peut pas dire ça, Patrice Carmoz. Donc, c'est à découvrir la folie belge et les Belges, ça ose tout, le nom de ce documentaire, ce soir à 21h sur France 3.
Très bien. Et on aurait pu faire le même genre de documentaire sur la Suisse.
Ah oui, Joël Dicker, moi je regarde souvent la télé de votre pays et on y voit aussi beaucoup de choses qu'on ne verrait pas en France. Déjà, bon, vous avez eu il y a 2 ans un président qui était un peu, on peut le dire, le roi du stand-up. On se souvient tous de cette sortie mythique de Johann Schneiderman.
Rire, c'est bon pour la santé.
Et il l'avait d'ailleurs démontré quelques semaines plus tard sur le plateau d'un excellent intervieweur que vous connaissez bien, je crois. Il s'agit de Darius Rochebain.
Darius Rochebain, on verra s'il nous écoute.
Bah oui, Darius Rochebain et son émission Pardonnez-moi, où il avait reçu donc Johann Schneiderman. Il l'avait interviewé sur sa rencontre prévue quelques jours plus tard avec le pape François. Et là encore, Johann Schneiderman avait eu une réponse très surprenante.
Vous allez rencontrer le pape François. Qu'est-ce que vous allez dire au pape François?
Je vais lui remercier pour sa forte contribution de peser notre monde.
Oui, oui, je pense que le pape François a dû avaler l'hostie de travers, hein, s'il a vraiment dit ça. Ça, c'est le problème du Suisse allemand qui essaie de parler français, vous voyez.
Oui, mais qui parle le français très bien.
Ouais, il parle très bien.
Il faut lui donner ce mérite. Hein.
Ouais, mais il voulait... y a beaucoup de...
L'inverse marche pas.
L'inverse marche pas très bien.
Il parle très mal le Suisse allemand et l'allemand.
Mais à la télé suisse, on entend des choses parfois très étonnantes. Est-ce que vous pourriez imaginer, par exemple, qu'en France, une présentatrice de TJ, comme on dit en Suisse, de JT en France, remercie les gens qui ont zappé pendant son journal? Ça, en France, ce serait pas possible. Eh bien, en Suisse, on est fair-play. On le fait.
Merci à vous d'avoir quitté ce journal, d'avoir suivi ce journal.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pardon.
Et non, les présentateurs, ils sont sacrément proches de leurs téléspectateurs en Suisse. Hein ? Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Et on termine avec la terreur des invités.
Oui, alors, lui, aucun acteur ne veut faire son JT. Parce qu'il est un peu comme Stéphane. À chaque fois, il donne la fin du film.
Bonsoir, Vincent Pérez.
Bonsoir.
Seul dans Berlin, c'est un couple qui perd son fils à la guerre et qui va se révolter, se rebeller. Ils ne prennent pas les armes, ils commencent à écrire des cartes postales.
Exactement.
On ne va pas dévoiler la fin, mais ça ne se termine pas bien, on le comprend dès le début.
Mais pour moi, ça se termine bien, le film se termine bien.
Ils perdent la vie.
Ils perdent la vie, mais...
Stéphane, il est de votre famille, lui, non, c'est pas possible.
C'est votre cousin.
C'est votre côté suisse, c'est pour ça que vous appelez Berne, en fait.
Merci beaucoup.
Le mec, il veut pas te dire.
Et le mec, bah tiens, si ça se termine très bien. Bah, quand même, ils sont trucidés.
Hein. On va voir qu'il a vu le film. Oui.
C'est ça le drame des intervieweurs qui veulent prouver qu'ils ont bien fait leur boulot.
Exactement.
Voilà, qu'ils ont préparé.
Merci beaucoup, Eric Dussard. On écoute Kimber Rose, I'm Sorry.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Toujours avec Joël Dicker. Alors, la première fois, est-ce que vous vous souvenez du tout premier manuscrit que vous avez envoyé à un éditeur et de sa réponse ?
Oui, je me souviens de ce manuscrit et je me souviens de la réponse qui était non. Et il y a eu encore 5 manuscrits après envoyés à chaque fois à 20 ou peut-être 30 éditeurs différents et à chaque fois c'était non merci. Donc je m'en souviens bien et de la première et des 30 suivantes.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on vous dit oui ?
C'est ma rencontre avec Dimitrievitch de l'âge d'homme qui m'a permis de rencontrer ensuite Bernard de Fallois. Et au fond, ça a été le contact. Et quand on me demande souvent, j'ai un livre, j'aimerais le faire paraître, comment je fais ? Je crois que souvent, arriver à entrer en contact avec des gens, c'est un meilleur moyen que d'envoyer juste un manuscrit comme ça.
Parce que le manuscrit n'avait pas changé entre le moment où vous l'avez envoyé par la poste et le moment où vous avez rencontré l'éditeur ?
Alors, celui de mon 5e roman écrit, qui est le premier paru, Les derniers jours de nos pères, le manuscrit n'a pas changé. Mmh. Effectivement, c'est la rencontre avec quelqu'un qui ne l'avait pas lu et qui, tout d'un coup, lui, a aimé, m'a rencontré, a vu ce qu'on pouvait faire avec que ça. Mmh. Il faut imaginer que les éditeurs reçoivent beaucoup de manuscrits par la poste, plusieurs, tout chaque mois, des centaines, je n'ai pas les chiffres. Et donc, pour arriver à faire le tri dans tout ça, c'est très compliqué, je pense. Alors, quand vous avez quelqu'un en face, c'est très différent.
C'est pour ça que moi, je refuse jamais de mettre en contact des auteurs potentiels avec les éditeurs parce que
c'est jamais les gens qui prennent une commission, ils refusent
jamais. Non, je suis pas comme ça moi. Ah mais vous voyez, on projette toujours sur les autres ses propres turbitudes.
On va relire vos interviews alors Stéphane, c'est très inquiétant.
Est-ce que le premier moment, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez senti que votre livre Harry Guébert allait devenir un succès?
Des lecteurs de Bernard de Fallois, des amis de Bernard, pendant l'été 2012, donc avant la parution, lui écrivent pour lui dire « Bernard, j'ai lu ce livre en 2 jours ». Et Bernard me le dit, et je me dis « Mais comment c'est possible ? J'aurais jamais imaginé que ce livre que je trouvais long, qui est épais, même moi, je ne l'ai pas lu en 2 jours. Il m'a fait, enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Vous ne l'avez pas écrit en 2 jours, en tout cas.
Moi, je ne l'ai pas écrit en 2 jours. Et du coup, bon, je ne suis pas le lecteur parce que je l'ai écrit, donc je relis beaucoup. Mais même moi, en 2 jours, ça me paraissait impossible. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a beaucoup frappé. Oui.
C'est 48 heures non-stop. Et vous vous souvenez de la première fois où vous avez pensé à écrire La disparition de Stéphanie Meller ? Comment est venue l'idée, le déclic ?
Alors le déclic, c'est pas un déclic puisque il n'y a pas de plan et que ça avance comme ça assez lentement en bon suisse. Mais c'était, comme je disais avant, c'est vraiment l'idée de ces personnages et de la chaîne de ces personnes qui les relieraient ensemble.
Votre première bêtise, vous en souvenez ?
Oui, je crois que je... oui, je rougis. J'avais devais avoir 4 ou 5 ans et je me souviens dans un hôtel avoir volontairement uriné à côté de l'urinoir parce que je trouvais que c'était subversif. Et mon frère m'a dit mais t'es complètement fou, si on se fait prendre, on est mort.
À 5 ans ça allait, mais pourquoi vous continuez aujourd'hui?
Ah, c'était vous dans les toilettes après moi, excusez-moi.
Est-ce que vous vous souvenez de la première dédicace?
Oui, c'était au Salon du Livre de Paris. Une des premières, en tout cas, qui m'a marqué vraiment parce que j'en avais signé à Genève, qui étaient des amis, la famille, etc. Et à Paris, j'ai passé 2 jours entiers au Salon du Livre de Paris à attendre que quelqu'un vienne et personne n'est venu jusqu'à ce que finalement une personne vienne. Oh, je ne la connais pas. Elle me dit « Ah, j'ai lu votre livre, j'ai trouvé ça extraordinaire. » Et j'ai signé pour la première fois pour quelqu'un qui venait me voir spécialement et ça m'avait beaucoup touché.
Eh bien, et vous souvenez de votre première chanson, la première chanson qui vous a marqué ?
Sans doute du Jean-Jacques Goldman, parce que mes cousins écoutaient beaucoup ça et qu'il y avait toujours une chanson de Jean-Jacques Goldman qui...
Eh bien, on ne sait pas si ce sera peut-être dans le quiz musical de Patrice Carmouze qu'on va retrouver dans un instant. Eh oui, j'essaye quand même. Voilà, tout ça a un sens, Stéphane Rose. Bon, vous êtes là à nous critiquer en permanence, mais on essaie de construire une émission.
Patron, vous êtes le meilleur.
Je sais, merci. Merci, flattez-moi. On va retrouver Patrice Carmouze dans un court instant.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, je rappelle que nous jouons pour faire gagner à nos auditrices et auditeurs un week-end fabuleux de 2 nuits au Miramar Thalassa de Biarritz. Les Thalassa Sea and Spa, c'est vraiment des endroits merveilleux pour se détendre et reprendre quelques forces. Voilà. Alors, nous allons jouer. Joël va jouer pour Émilie et moi, je joue pour Anne-Hélène.
Voilà, c'est un test couteau suisse, donc. Très bien. Avec des chansons sur Joël, sur Dick, Dicker, Stéphanie ou Suisse. Hein,
les chansons sur Dick, j'attends.
Donc le plus dur, c'est de savoir dans quelle catégorie se trouvent.
Alors,
les chansons.
Alors, on va commencer par des Joël, si vous voulez.
Des Joël. Très bien.
Et donc, il faut reconnaître qui chante.
Très bien.
Et on commence par vous.
Si je
Nom du groupe, ouais. Alors, dans lequel il y avait une Joël.
C'était il était une fois.
Oui, mais alors je connais la chanson, j'ai aucune idée de qui chante.
Mais c'est pas il était une fois.
Il était une fois, mais qui
était une fois. Ah, voilà, c'est très bien.
Je veux dire le nom de la Joël qui chantait.
Voilà. Ah non. Joël.
Ah même vous savez pas, moi ça m'intéresse.
C'était Joël, même les draps s'en souviennent.
Il était une fois, voilà.
Ouais, il était une fois.
C'est mon dernier mot.
Et avec Joël.
Avec Joël.
Et Stéphane, donc. Ça, c'était...
Oula, oui.
Alors, c'est Joël Ursule.
C'était l'Eurovision, ça. Ouais. Ça représentait la France à l'Eurovision.
Joël Ursule.
Chanson de Serge Gainsbourg. Ouais. Pas
Joël Ursule.
Voilà, oui. On est séparés d'un mètre, mais il faut à peu près 15 secondes pour que ça lui arrive.
Je pense que je vérifie.
Vous l'êtes sûr, quoi.
Ouais, t'as une partie. Mélodie. Ça, c'est plus compliqué. C'est un Joël, mais alors, je vous le dis tout de suite, il est plus connu. Il n'est pas connu du tout comme chanteur, il était connu comme joueur de foot. Il était à l'OL, gardien de but.
Je l'ai. Il n'en a pas 36.
Et donc,
génial.
Je suis né en 85.
Je t'en souviens. Il faut l'écouter un peu. Gardien de but de l'équipe de France.
Gardien de but de l'équipe de France.
Okay.
Très poète.
Poète.
À 16h.
Joël Bass.
Bats. Joël Bats. Très bien.
Bravo. C'est un très bon gardien.
Très bon gardien.
Il n'était pas très grand, mais il était...
Il était entraîneur aussi des gardiens de l'OL pendant longtemps. Maintenant, je crois qu'il est au Canada. Stéphane.
Ah oui,
bravo. 2-1.
J'adorais.
Billy Joel.
Bravo. Wow. Ça souffle dans
et
tous
là,
les
j'ai
coins.
Pas été aidé.
Oui, aussi, on l'a entendu avant.
Ah, non,
je l'ai entendu avant.
J'ai mes oreilles et Joël, puis il n'y a pas énormément des Joël.
Vous êtes vraiment trop fort.
On va quitter les Joël.
Wow. Vrai, de partout.
Ah. On parle et Joël, on va vous demander qui chante ça.
Dites, c'est un Dick alors.
Ouais, c'est un Dick.
On n'en a pas beaucoup des Dick.
Ouais, Dick Rivers.
Non, mais en Suisse, ils ont été épargnés par plein de choses, vous savez.
C'est pas arrivé. C'est pas encore arrivé en Suisse.
Faut pas croire. Hein.
C'est merci les Alpes.
3-2.
Stéphane.
Bruxelles, ma belle.
Ouais, c'est Dick, Dick,
Dick la Dick
et ouais. Aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris et puis.
Dick
bravo,
très jolie chanson d'ailleurs. Reste un belge, enfin.
3 par Camoulox.
On va peut-être passer au Stéphanie maintenant,
ah ouais,
avec Joël.
Si c'est fichu,
Bah alors, on est sûr qu'elle. Stéphanie.
Stéphanie Delon. Ah, ça c'est Delpech.
Oui, Michel Delpech. Parce que il dit de temps en temps, tu me donneras Stéphanie. Ça,
ah, Michel Delpech.
Là, on est sur Stéphanie. Voilà.
Oh la vache.
Les ouragans, j'espère.
Oui, moi j'attendais celle-là.
La cage de
neurones. Mais pour l'instant, il y a ça, Stéphane.
Stéphanie, was me crasse. Comme un voyou d'Alcatraz. Stéphanie.
Il y avait un peu l'accent un peu corse.
Ah, c'est Fury.
Patrick Fury.
Ah oui, il avait une coupe de cheveux derrière l'époque. Oh, oui.
Quatre partout.
Alors, Joël.
C'est pas partout.
Stéphanie de
Monaco. Voilà. Dévasté ma vie.
Alors on va passer au Suisse maintenant. Écoute, Suisse. Là. Et alors, si vous égalisez, après on fera un des partages. Donc Stéphane.
Sur quel thème?
Il est Suisse, Patrick Juvet.
Bien sûr.
Il est Suisse.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui. Ah, voilà, vous avez appris un truc. Alors Joël, là je vais vous demander une concentration extrême parce que c'est le plus rapide entre vous et Stéphane.
Quel
qui
thème?
Fera gagner l'auditeur. C'est un chanteur suisse.
Ah, d'accord.
Stéphane est cher.
Ouais.
Oh, vous êtes extraordinaire.
Vous l'avez pas trouvé?
En tout cas, c'était pas triste.
Non.
C'est donc Anne-Hélène qui part à Biarritz au Miramar. Merci Joël Dicker.
Merci beaucoup.
Merci
à
de nous enchanter avec vos romans. Il faut quand même un peu de temps pour les écrire. Minimum
oui, au moins deux ans et demi. Oui, c'est long.
Donc j'espère que ça sera là quand vous reviendrez pour le prochain.
Avec grand plaisir.
À écrire ça en deux jours. C'est ça. La disparition de Stéphanie Meller. Lisez-le, vous allez adorer. C'est absolument génial. C'est aux éditions de Fallois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphane.
Et puis, on va retrouver tout le week-end, on va retrouver Eric Dussard avec Jade. Jean-Luc Reichmann est votre invité de On fait, on refait, on défait la télé. Samedi et dimanche à 13h30 sur RTL. Mes invités de la semaine prochaine. C'est Mythique, lundi. Marc Simoncini est notre invité. Vous savez, le fondateur de Mythique.
Ah oui, très bien. Oui. Il y a du boulot.
Bah, il y a du boulot, c'est-à-dire.
Bah, dans notre équipe.
Il a écrit un livre et c'est passionnant, sa vie. François Cluzet est notre invité mardi. Mireille Dumas est notre invité mercredi. Jean-Marie Roire est notre invité jeudi. Et Jean-Pierre Darroussin, vendredi. Bon week-end à l'écoute d'RTL. Merci de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.